Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, nous commençons maintenant le dernier traité écrit par Saint Thomas dans la Somme théologique, le traité sur le sacrement de pénitence. Donc il n'a pu en composer que les sept premières questions, des questions 84 à 90. Et malheureusement, la mort a interrompu son travail. On peut réfléchir un petit peu à ce qu'aurait pu être l'œuvre de Saint Thomas s'il avait vécu 40 ans de plus. Il est mort très jeune. Il avait, je crois, la cinquantaine. Il n'est pas 60 ans quand il est mort, si mes souvenirs sont exacts. Il est mort en 1274. Et donc le traité sur la pénitence et les derniers traités, à savoir les traités sur les quelques sacrements qui manquent, qu'il n'avait pas encore étudiés, plus le traité sur les fins dernières. Tout cela, ce travail de complément sera réuni dans ce qu'on appelle le supplément qui a été fait par le frère Réginald, un des secrétaires de Saint Thomas d'Aquin. Alors, nous sommes toujours dans le texte écrit par Saint Thomas. Donc, à partir de la question 84 jusqu'à la question 90. Et encore, le dernier article de la question 90 est vraisemblablement déjà pas de Saint Thomas. Donc, ce traité couvre, ou commence à couvrir, le sacrement de pénitence, la confession. Alors, nous allons commencer par la question 84. La pénitence en tant que sacrement. Et nous allons d'abord voir l'article 1. La pénitence est-elle un sacrement? Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un sacrement, un signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Donc c'est quelque chose qui se voit, qui manifeste quelque chose qui ne se voit pas, si vous voulez. Un signe extérieur donné par un ministre en suivant une matière, utilisant une matière, en utilisant une forme spécifique qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, transmise à nous par l'Église, avec une intention déterminée. Donc, il est évident, comme le dit Saint Thomas, que la pénitence célébrée dans l'Église est un sacrement. Alors attention, il faut faire attention ici aux termes utilisés. Le mot pénitence a deux sens complètement différents. La pénitence est d'abord une vertu, la vertu de pénitence, qui est une vertu par laquelle nous réparons en quelque sorte les bêtises que nous faisons. Mais la pénitence est aussi le nom d'un sacrement. C'est pour ça qu'en général, j'utilise le mot confession pour parler du sacrement de pénitence, pour éviter de tout mélanger. Le sacrement consiste, dit Saint Thomas, et en fait il cite Saint Grégoire, ce sacrement consiste dans une cérémonie faite de telle façon que nous y recevions symboliquement ce que nous devons recevoir saintement. Il est évident que dans la pénitence, la cérémonie se fait de telle sorte qu'elle signifie quelque chose de saint, tant de la part du pécheur pénitent que du côté du prêtre qui l'absout. Le pécheur pénitent montre en effet par ses actes et ses paroles que son cœur s'est détaché du péché. De même, le prêtre, par ses actes et ses paroles adressées aux pénitents, signifie l'œuvre de Dieu remettant les péchés. Donc le bon Dieu va pardonner les péchés en utilisant son ministre comme instrument. Donc la pénitence célébrée dans l'Église est véritablement un sacrement. dans la pénitence se trouve un élément qui est simplement un signe, ce qu'on appelle le signe, signum tantum, le signe seulement. Les actes accomplis extérieurement, tant que par le pécheur pénitent, que par le prêtre qui est absous. Il y a également une deuxième chose, en théologie, on distingue, la réalité des signes, c'est la pénitence intérieure du pécheur. La pénitence extérieure, l'absolution, n'est que la conséquence d'un acte interne qui doit exister dans le cœur du pénitent avant de se confesser. Ce qui est la réalité seulement, et non signe, c'est la rémission du péché. Donc le premier élément, dit saint Thomas, pris dans son intégrité, est cause du deuxième, le premier et le deuxième réunis sont cause du troisième. Donc on commence par les actes accomplis extérieurement, puis on travaille sur la pénitence intérieure du pécheur, du pénitent, et on obtient la rémission des péchés. Alors, quelle est la matière propre de ce sacrement? Vous savez que, comme tout sacrement, il faut trois choses pour qu'un sacrement soit valide. Il faut une matière, la chose utilisée, alors, par exemple l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour la Sainte Eucharistie. Bon, nous verrons que pour la pénitence, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, parce que la pénitence ne travaille pas sur quelque chose qui peut se toucher. Le péché en tant que tel n'est pas quelque chose qui se voit matériellement. Avec cette matière, il faut en plus la forme. La forme, ce sont les paroles utilisées. Et enfin, il faut un ministre qui fait ce que l'Église a toujours fait. Alors, c'est un article important, la matière propre de ce sacrement qu'il faut bien comprendre. Donc, cette matière est nécessaire pour qu'il y ait sacrement de pénitence. Pour que la confession soit valide, il faut d'abord une matière. Il faut que le prêtre, ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, exerce sa juridiction sur quelque chose qui est quelque chose de réel, à savoir le regret de ses péchés, des péchés pour qu'on puisse les pardonner. Saint Paul reprocher justement à ceux qui ne voulaient pas se convertir de ne pas avoir fait pénitence des péchés d'impureté, de fornication et d'impudicité qu'ils avaient commis. C'est en 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, saint Thomas va distinguer entre la matière prochaine et la matière éloignée. Bon. La matière prochaine du sacrement de pénitence, ce sont les actes du pénitence qui ont eux-mêmes pour matière les péchés regrettés confessés par le pénitent pour lesquels il est satisfait. Il s'ensuit donc, dit saint Thomas, que la matière éloignée du sacrement de pénitence, ce sont les péchés, non pas en tant que voulu en intention, mais en tant qu'ils doivent être détestés et abolis. Donc, la matière éloignée sont les péchés. On amène en quelque sorte ces péchés confessionnels en demandant au prêtre, par son pouvoir d'ordre, joint au pouvoir de juridiction, pour demander au prêtre, par ce pouvoir, ce double pouvoir qu'il a reçu de son évêque, le jour de son ordination sacerdotale, demandons au prêtre de pardonner ses péchés. Donc il faut amener les péchés. Si on n'amène pas les péchés, il n'y a rien à pardonner. Nous verrons après que cette matière éloignée, qui sont les péchés, il faut rajouter une matière prochaine. La matière prochaine, saint Thomas dit, sont les actes du pénitent. Alors, quels sont ces actes? Nous allons expliquer ça petit à petit. C'est quelque chose de très important. Il y a trois actes qui vont former ce qu'on appelle la matière prochaine du sacrement de pénitence. La contrition, l'accusation, la réparation. Contrition, c'est le regret des péchés commis, avec le ferme propos de ne pas les recommencer. L'accusation, c'est de dire ses péchés, en expliquant le nombre, l'espèce et les circonstances. Et enfin, la réparation des péchés. Donc, trois choses. Et l'ensemble de ces trois actes, contrition, accusation, réparation, constitue ce qu'on appelle la matière prochaine du sacrement de pénitence. Par l'article 3 de la question 84, nous allons maintenant étudier la forme de ce sacrement, c'est-à-dire les paroles utilisées. Donc, ces paroles sont assez longues. On appelle la forme. La partie substantielle, qui est absolument nécessaire pour la validité de l'absolution, c'est simplement la phrase « Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cependant, l'Église a entouré cette partie substantielle, une partie accidentelle, mais qu'on dit quand même, sauf cas d'urgence, cas de danger de mort, on n'est pas tenu d'utiliser cette partie accidentelle, mais qui fait partie quand même de ce qu'on appelle la forme du sacrement. Je vous la donne pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà ce que doit dire le prêtre après au moment où il donne l'absolution. Alors, au début de la confession, au moment où le pénitent s'agenouille devant le prêtre pour se confesser, le pénitent commence en disant « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. » Parce que j'ai péché, et le prêtre dit « Que notre Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous confessiez proprement tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Une fois qu'il a entendu l'accusation, qu'il a donné les paroles de confort et réconfort qu'il doit donner, voilà ce que dit le prêtre. C'est ça qui forme ce qu'on appelle la forme du sacrement de pénitence, sacrement de la confession. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, par la même autorité, je vous absous de tout lien d'excommunication et d'interdit, autant que je le peux, et autant que vous en avez besoin. Ainsi, je vous absous de vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la très sainte Vierge Marie, de tous les saints, tout le bien que vous avez fait, toutes les peines que vous avez supportées, soient utilisées pour vous, pour la rémission de vos péchés, une augmentation de grâce, et la récompense de la vie éternelle. Amen. Alors, encore une fois, la partie substantielle nécessaire à la validité de l'absolution, c'est simplement la phrase « Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, c'est une reprise de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. On trouve ça en Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le prêtre a dit en Matthieu 16, 19, « Tout ce que vous délirez sur terre sera délié sur la terre. Tout ce que vous délirez au ciel sera... Tout ce que vous délirez, pardon, sur la terre sera aussi délié au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. » Le prêtre, appuyé sur l'autorité de ces paroles du Christ, dit « Je vous baptise ». Il doit donc, en vertu de la même autorité, dans le sacrement de pénitence, dire « Je vous absous ». Puisque les sacrements de la loi nouvelle produisent les effets qu'ils signifient, il faut que la forme signifie ce que fait le sacrement conformément à la matière sacramentelle. Donc, de même que lorsque le prêtre dit « Je vous baptise en versant l'eau sur le front de l'enfant », la vertu de charité est infusée par Dieu dans l'âme de cet enfant. De la même façon, lorsque le prêtre, en faisant un signe de croix sur la personne qui est agenouillée devant lui à la confessionnal, dit « Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Dieu, utilisant le prêtre qui agit in persona Christi, en nom même du Christ, Dieu, utilisant le prêtre comme un instrument, pardonne tous les péchés. La condition, bien sûr, qui est un regret des péchés, c'est absolument évident. Nous avons bien expliqué tout ça avec saint Thomas d'Aquin. Alors, certains se posent la question de savoir si l'imposition, s'il y a une imposition des mains qui est requise au sacrement. En général, lorsque le prêtre donne l'absolution, il lève la main pendant toute la durée de l'absolution et fait un grand signe de croix au moment même où il donne la parole de l'absolution. Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, strictement parlant, ce sacrement ne comporte pas d'imposition des mains, comme par exemple le sacrement de l'ordre. Donc, une chose est très importante maintenant, c'est l'article 5 de la question 84, ce sacrement est-il nécessaire au salut? Alors, nous allons voir qu'il n'est pas nécessaire au salut pour tout le monde. Un bébé qui meurt après le baptême, par exemple, n'a pas besoin de sacrement de pénitence pour aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de péché sur la conscience. Mais ce sacrement, dit saint Thomas, bien qu'il ne soit pas nécessaire à tous, est cependant nécessaire à tous ceux qui sont sous le joug du péché. C'est donc une nécessité conditionnelle. Donc, il explique, quelque chose est nécessaire au salut de deux façons. Donc, on est dans l'article 5, ce sacrement est-il nécessaire au salut? soit cette nécessité absolue, soit elle est conditionnelle. Elle est absolument nécessaire au salut, ce sans quoi personne ne peut y arriver. Comme la grâce du Christ et le sacrement de baptême par lequel on renaît dans le Christ. Quant à la nécessité du sacrement de pénitence, elle est conditionnelle. Ce sacrement n'étant pas nécessaire à tous, mais simplement seulement à ceux qui sont sous le joug du péché. Bon, quand le péché a été consommé, il engendre la mort. C'est Saint Jacques, chapitre 1, verset 15, dans son épître. Il devient donc nécessaire au salut du pécheur d'être délivré de son péché. Cela ne peut se faire sans sacrement de pénitence, dans lequel opère la vertu de la passion du Christ par l'absolution du prêtre jointe aux actes du pénitent, on a déjà expliqué, à savoir l'accusation, la contrition, l'accusation et la réparation, coopérant à la grâce donnée par la rémission du péché. Il est donc nécessaire et évident que le sacrement de pénitence est nécessaire au salut après le péché. L'Église enseigne également que le péché, même grave, peut également être détruit par la toute-puissance de Dieu, qui n'est pas liée par les sacrements, par un acte de contrition parfaite. Si je regrette mes péchés par pur amour du bon Dieu, pas par peur de l'enfer, mais par pur amour de Dieu, qu'on appelle un acte de contrition parfaite, et si le bon Dieu, dans sa miséricorde, permet qu'une personne déterminée qui est en état de péché mortel élicite dans son intelligence et sa volonté un acte de contrition parfaite, le péché mortel est effacé. Du fait, dit saint Thomas, que la bonne volonté a été supprimée par le péché, elle ne peut nous être rendue sans cette tristesse qui nous fait pleurer le péché passé, qui est celle de la pénitence. Une fois l'homme tombé en état de péché, il ne peut être libéré par la charité, la foi, la miséricorde sans la pénitence. Donc, même dans le cas d'un acte de contrition parfaite, l'acte de contrition parfaite sous-entend le regret des péchés. On ne peut pas obtenir du bon Dieu un acte de contrition parfaite si on ne regrette pas ses péchés. Donc, un mouvement de foi, d'espérance, de charité, de miséricorde ne peuvent exister dans une âme sans la pénitence préalable, l'esprit de pénitence préalable. En effet, dit saint Thomas, la charité exige que l'homme pleure l'offense commise contre son ami et s'applique à lui donner satisfaction. La foi demande aussi que l'homme cherche à se justifier de ses péchés par la vertu de la passion du Christ, vertu qui opère dans les sacrements de l'Église. Et enfin, la miséricorde bien ordonnée requiert elle-même que l'homme, en faisant pénitence, remédie à la misère dans laquelle il s'est précipité par le péché. Donc quand on fait pénitence, si vous voulez, on manifeste deux choses. D'une part, notre foi en la justice de Dieu. Nous reconnaissons que nous avons offensé gravement le bon Dieu par le péché, que nous sommes coupés de lui et que par le péché nous avons perdu la charité. Mais par la vertu de pénitence, on manifeste aussi notre foi en la miséricorde du bon Dieu, c'est que nous croyons que Dieu écoute la voix du pécheur pénitent. Aie pitié de ton âme, dit le texte de l'Ecclésiastique, aie pitié de ton âme en faisant ce qui plaît à Dieu. C'est grâce au privilège personnel de son pouvoir d'excellence que le Christ a pu concéder, donc, par exemple, à la femme adultère, l'effet du sacrement de pénitence, la rémission des péchés, sans le sacrement, mais non sans les sentiments de pénitence intérieure que lui-même, par la grâce, a fait naître en cette femme. C'est ce qu'on appelle, dans ces cas-là, un acte de contrition parfaite. L'acte de contrition parfaite efface les péchés mortels sans le sacrement de pénitence lui-même. Alors, quels sont les rapports du sacrement de pénitence avec les autres sacrements? Alors, ici, il va citer un texte très connu de saint Jérôme qui dit que la seconde planche de salut après le naufrage, c'est la pénitence. Bon. Le premier moyen de salut pour l'homme sur l'océan de cette vie est qu'il soit mis et conservé dans l'état d'intégrité. Et le second, qu'il y revienne par les pénitences si le péché lui a fait perdre cette intégrité. Donc la première planche de salut, c'est le baptême. La deuxième planche de salut, c'est sacrement de pénitence. Alors, voilà ce qu'explique saint Thomas. La pénitence ne tient que le second rang vis-à-vis de l'état d'intégrité qui est conféré et conservé par les sacrements qui précèdent, surtout par le baptême. De là, son nom métaphorique de seconde planche après le naufrage. Naufrage, c'est quoi? C'est le naufrage du péché. Donc si j'ai perdu le salut par le péché après le baptême, il faut un autre sacrement pour effacer les péchés actuels commis après le baptême, ce qu'on appelle le sacrement de pénitence. de même que le premier moyen de salut des pèlerins en mer est qu'ils demeurent dans un navire en bon état, et le second qui s'attache à une planche que le navire a été brisé, ainsi le premier moyen de salut pour l'homme sur l'océan de cette vie, c'est qu'il soit mis, conservé dans l'état d'intégrité, et le second, qu'il y revienne par la pénitence si le péché lui a fait perdre cette intégrité. Donc le sacrement de pénitence nous remet en contact avec Dieu. Article 7 de la question 84, l'institution de ce sacrement. Les actes du pénitent, donc je vous répète, contrition, accusation, réparation, les trois actes du pénitent tiennent lieu de matière. C'est-à-dire, les trois actes du pénitent sont au sacrement de pénitence, ce que l'eau est au baptême, et ce que le pain et le vin sont au sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc les actes du pénitent tiennent lieu de matière, et ceux du prêtre, agissant comme ministre du Christ, ont le rôle de principe formel achevant le sacrement. Donc pour qu'il y ait un sacrement valide au niveau de la pénitence, il faut que le pénitent apporte avec lui au confessionnal les trois actes du pénitent, la contrition, c'est-à-dire le regret de ses péchés avec le ferme propos de ne pas recommencer, d'éloigner donc de lui, de sa vie de tous les jours, les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Il faut également, avec cette contrition, il faut l'accusation de tous les péchés, expliquant le nombre, les espèces, l'espèce du péché et les circonstances qui changent d'espèce. Et il faut également la réparation. Donc il faut les trois actes, mais il faut aussi un ministre validement ordonné, vraiment prêtre, qui ait le pouvoir de pardonner les péchés au nom du bon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, au début de sa prédication, n'a pas simplement intimé aux hommes qu'ils devaient se repentir, mais aussi qu'ils devaient faire pénitence, en leur indiquant de façon déterminée les actes requis pour ce sacrement. Quant à l'office des ministres, il l'a déterminé quand il a dit à Saint-Pierre « Je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné au ciel, tout ce que vous retiendrez, vous lirez sur la terre sera retenu et lié au ciel. » Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés qui dérive de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait donc pas encore de prescription demandant au pécheur de joindre à la douleur de ses fautes la ferme résolution de se soumettre par la confession à la satisfaction au pouvoir ecclésiastique des clés, dans l'espoir d'obtenir son pardon par la vertu de la passion de Christ. Donc ce pouvoir des clés va intervenir, non pas immédiatement au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en fait, le pouvoir des clés, strictement parlant, va être donné aux apôtres après leur ordination sacerdotale. Alors, la durée de la pénitence, article 8. Donc, la pénitence, remarque saint Thomas, appartient à l'état des commençants. Mais l'homme doit passer de cet état à celui des progressants, celui des parfaits. Et donc, nécessaire qu'il fasse pénitence. Alors, il y a deux sortes de pénitence. Une extérieure, une intérieure. La pénitence intérieure nous fait pleurer le péché commis. Et elle doit durer jusqu'à la fin de la vie. L'homme, en effet, doit toujours regretter d'avoir péché. Si jamais il trouvait bon d'avoir commis le péché, du coup, il en redeviendrait coupable et perdrait le fruit du pardon. N'oublions pas qu'il n'y a que deux voies pour aller au ciel, la voie de l'innocence ou la voie de la pénitence. La voie de l'innocence n'est ouverte que pour ceux qui n'ont jamais commis de péché. Un bébé après le baptême est sur la voie de l'innocence. Tant qu'il est dans cette voie de l'innocence, il n'a pas besoin de se confesser puisqu'il n'a pas commis de péché, il n'a pas de péché sur la conscience et que le péché originel lui a été enlevé par le baptême. Cependant, dès qu'un enfant commet son premier péché grave, il perd la voie d'innocence. La voie d'innocence, une fois perdue, est définitivement perdue. On ne peut pas retrouver la voie d'innocence, ce n'est pas possible. La voie d'innocence étant fermée, il reste à ce moment-là qu'une deuxième voie, la voie de pénitence. Donc, quant à la pénitence extérieure, qui nous fait donner des signes extérieurs de notre regret, confesser oralement nos péchés au prêtre qui les absout, et satisfaire selon la volonté du confesseur, elle ne doit pas durer jusqu'à la fin de notre vie, mais seulement pendant un temps proportionné à la gravité du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pénitence générale, qu'on appelle cette pénitence intérieure, qu'on doit faire tout le temps. À partir du moment où on a offensé le bon Dieu, il faut constamment regretter nos péchés passés, même si le bon Dieu les a pardonnés. Par contre, lorsque le bon Dieu nous donne l'absolution par l'intermédiaire du prêtre, qui nous pardonne nos péchés, il nous faut à ce moment-là faire la petite pénitence qui nous a été donnée par le prêtre, ce qu'on appelle la réparation. Cette réparation ne va pas forcément durer toute la vie. Si le prêtre vous demande de dire, par exemple, 2 dizaines de chapelets, bien, on fait cette réparation tout de suite. Et le temps de pénitence est proportionné à la gravité du péché. Et cette pénitence doit être continuelle. En fait, saint Thomas a déjà répondu en disant que la pénitence intérieure doit être continuelle, mais pas la pénitence extérieure. Alors, voilà ce qu'il dit. Il donne une réponse philosophique. Il y a une seconde façon d'être pénitent, c'est d'en avoir l'habitude de la pénitence. C'est ainsi qu'on doit être continuellement pénitent. Pour cela, on ne doit jamais rien faire qui soit contraire à la pénitence et qui supprime l'habitude de la pénitence. On doit de plus avoir la volonté de toujours regretter ses péchés, ce qu'on appelle la pénitence intérieure. Alors, est-ce que ce sacrement de pénitence peut-il être renouvelé ? Parce que certains disent, comme le baptême peut être reçu qu'une fois, on devrait pouvoir recevoir le sacrement de pénitence qu'une seule fois. Attention, il n'y a que le sacrement de pénitence, le sacrement de l'ordre et le sacrement de la confirmation qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois parce que ces pénitences, ces sacrements, pardon, donnent un caractère propre. Le caractère d'enfant de Dieu pour le baptême, le caractère de soldat de Dieu pour la confirmation, le caractère de ministre de Dieu pour l'ordre. Bon, le sacrement de mariage en tant que tel ne donne pas, ne confère pas de caractère, mais dans la pratique, les gens, la plupart du temps, ne se marient qu'une seule fois, sauf pour les veufs, qui peuvent se remarier, mais c'est relativement rare. Par contre, le sacrement de pénitence n'est pas un sacrement en caractère. Voilà ce que dit Saint Thomas. Il va citer Saint Grégoire, faire pénitence, c'est pleurer les péchés déjà commis et ne plus commettre d'actes qu'on doive pleurer. Donc, une véritable pénitence inclut un regret des péchés commis avec une ferme résolution pratique de ne pas recommencer. Et saint Thomas va citer le témoignage de saint Matthieu, chapitre 18. Pierre ayant demandé « Combien de fois dois-je remettre à mon frère les offenses qu'il aura commises contre moi ?» Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répondit « Je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc Dieu lui-même, par la pénitence, offre très souvent son pardon à ceux qui pêchent, d'autant plus qu'il nous enseigne à faire cette prière « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, le sacrement de pénitence peut et doit être renouvelé, puisque malheureusement nous gardons en nous souvent des occasions de péché, et nous gardons en nous le péché. Hélas, nous ne sommes pas, tant que nous sommes sur la terre, eh bien, nous sommes des viateurs, nous sommes des pèlerins, et que malheureusement nous sommes exposés au péché. Le bon Dieu le sait, et donc permet à ce que nous utilisions plusieurs fois le sacrement de pénitence. Il y avait des saints qui se confessaient tous les jours. Nous avons montré, dit saint Thomas, qu'en raison du libre arbitre, la charité une fois reçue pouvait se perdre malheureusement, et que par conséquent, après une vraie pénitence, on pouvait pécher mortellement. La grandeur infinie de la miséricorde divine qui dépasse tous les péchés, quel que soit leur nombre et leur gravité. Bon, et cette grandeur infinie de la miséricorde de Dieu est souvent méconnue, surtout aujourd'hui. Même au début de l'histoire de l'Église, il y avait déjà ce problème, puisque certains catholiques, qui étaient trop durs, pensaient qu'après certains péchés, on ne pouvait plus pardonner. Par exemple, ils pensaient que si un homme, un catholique, avait failli à sa foi sous la torture pendant les persécutions des premiers siècles, il fallait le rebaptiser parce que le péché était tellement grave qu'il fallait le rebaptiser pour enlever le péché. Les pères de l'Église ont expliqué non, il est baptisé, même s'il a apostasié, il faut qu'il demande pardon pour son apostasie, qu'il reçoive l'absolution du prêtre pour son apostasie, et il reprend le chemin du catholique. Alors, quand Saint Paul dit « Il est impossible à ceux qui ont été une fois illuminés de de l'illumination du baptême d'être renouvelé par la pénitence, c'est-à-dire par le baptême qui est le bain de la régénération, de la rénovation dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est illuminé par le baptême, nous n'avons pas besoin d'être réilluminé, puisque le baptême, le caractère du baptême demeure. Car si notre Seigneur a rendu la santé à tant d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, c'est pour interdire aux pécheurs de désespérer. Le pire des péchés, le plus grave sans doute, le plus dangereux, je dirais, de tous les péchés, c'est le péché de désespoir. C'est pas le plus grave. Le péché contre la foi, directement, le péché d'infidélité, le péché le plus grave. Mais le péché de désespoir, le péché le plus dangereux, c'est le péché de Judas. Le péché de Judas, c'est d'avoir limité la grandeur de la miséricorde du bon Dieu. N'oublions pas que Judas et Saint-Pierre, tous les deux, ont commis un péché énorme. Ils ont apostasié, littéralement. Mais Judas n'a pas cru à la miséricorde du bon Dieu, est en enfer, alors que Saint-Pierre, au contraire, a cru à la miséricorde infinie du bon Dieu, et lui est au ciel. Donc, la grande haine de Dieu, c'est une citation de Saint-Augustin, la grande haine de Dieu pour les péchés se reconnaît dans ce fait qu'il est toujours prêt à les détruire pour empêcher que se dissolve ce qu'il a créé et que s'anéantisse par le désespoir ce qu'il a aimé. Donc Dieu aime tant les âmes qu'il a créées pour son bien, qu'elles soient un jour au ciel. Dieu a un tel amour pour les hommes qu'il a institué un sacrement qu'on peut recevoir plusieurs fois pour retrouver à chaque fois l'amour et la charité du bon Dieu après le péché mortel. Passons à la question 85. Donc ce traité de la pénitence, je vous l'ai dit, c'est Saint Thomas est assez court parce qu'il n'a écrit que la première partie. Donc question 84 et 90. Voilà, je pense 2-3 cours pour que nous couvrions ces 6 questions de Saint Thomas. 6 questions et demie en fait. Question 85 de la tertia part, la vertu de pénitence. Saint Thomas se pose la question de savoir si la pénitence est une vertu. Bon. Or, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, faites pénitence, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. La pénitence est donc une vertu. C'est un habitus, la vertu est un habitus qui nous fait choisir selon la droite raison. Habitus operativus bonus. L'habitus qui nous fait, une habitude qui nous fait agir selon le bien. Regretter donc ce qu'on a fait en voulant obtenir que cela n'ait pas été fait serait sot. Mais telle n'est pas l'intention du pénitent. Parce qu'on ne peut pas détruire le passé. Passé, c'est le passé. Vous avez offensé le bon Dieu, vous ne pouvez pas faire de ne pas avoir offensé le bon Dieu. Mais le bon Dieu peut effacer l'offense faite. Pas pareil. Sa douleur est un déplaisir, une réprobation du fait passé avec l'intention d'en éloigner les conséquences, c'est-à-dire l'offense de Dieu et la dette de peine. Et ça, ce n'est pas sot du tout, dit saint Thomas. Donc on ne peut pas empêcher un fait passé d'avoir existé, mais on peut empêcher les conséquences de ce fait passé. La pénitence est donc un précepte spécial. Agir pour détruire le péché passé, en tant que ce péché offense Dieu, est ce qu'on trouve dans la raison spécifique d'aucune autre vertu. Il est donc nécessaire de faire de la pénitence une vertu spéciale par laquelle est détruit le péché et détruit le péché passé. Si l'on considère donc dans l'acte du pénitent le seul déplaisir qu'il a du péché passé, cela relève immédiatement de la charité, comme la joie du bien passé. Mais l'intention de travailler à effacer le péché passé requiert une vertu spéciale soumise au commandement de la charité. Cette vertu, c'est ce qu'on appelle la vertu de pénitence. Alors, saint Thomas se pose la question, c'est l'article 3 de la question 85, sous quelle vertu faut-il ranger la pénitence? Eh bien, il va expliquer que la vertu de pénitence est une espèce de la vertu de justice. La vertu de justice, c'est la vertu théologale, une foi, espérance, la vertu cardinale, la vertu de justice par laquelle on rend à Dieu ce qui lui est dû. La pénitence est donc une espèce de la vertu de justice. La justice relative, celui des relations entre personnes dont l'une est sous le pouvoir de l'autre. Bon, comme l'esclave est sous le pouvoir du maître, le fils sous celui du père, l'époux sous celui de Marie. La pénitence recourt donc à Dieu avec la résolution de s'amender comme l'esclave devant son maître. Il cite David, dans le psaume 123, « Comme les yeux des esclaves fixent les mains de leur maître, ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. » Magnifique phrase. Comme le fils à son père, qui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. » Et comme l'épouse à son mari, selon Jérémie, « Vous vous êtes souillé avec beaucoup d'amants, mais revenez à moi, dit le Seigneur. » Donc, ce n'est pas Dieu qui est la matière de la pénitence, ce sont les actes humains par lesquels Dieu est offensé ou au contraire apaisé. Dieu est donc seulement la personne envers laquelle s'exerce la vertu de justice. Cela montre que la pénitence n'est pas une vertu théologale, puisqu'elle n'a pas Dieu directement pour objet ou matière. Il n'y a que trois vertus théologales, n'oubliez pas, la foi, l'espérance et la charité. La foi pour croire, l'espérance pour désirer, pour prier, et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Donc la vertu qui est la vertu supérieure à la vertu de pénitence, c'est la vertu de justice. Et vous, qui a quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors, le siège, quel est le siège de la vertu de pénitence? Eh bien, saint Thomas explique que cette vertu de pénitence a son siège dans la volonté. La pénitence étant, en tant que vertu, dans la volonté comme dans son sujet, son acte propre et le ferme propos de corriger pour Dieu ce qui a été fait pour lui. Donc il n'y a pas de pénitence, conclusion à tirer, il n'y a pas de vertu de pénitence sans ferme propos de ne pas recommencer. Et il n'y a pas de ferme propos de ne pas recommencer sans prendre les moyens pratiques pour éviter de retomber dans le péché. Donc, il n'y a pas de pénitence sans prendre les moyens pratiques pour ne pas recommencer le péché commis dans le passé. Donc, la pénitence en tant que vertu est dans la volonté comme dans son sujet, son acte propre et le ferme propos de corriger pour Dieu ce qui a été fait contre lui. Alors, voyons maintenant, question 85, article 5, un article important, la cause de la vertu de pénitence. Donc, saint Thomas explique que la vertu de pénitence, si elle dépend de la vertu de justice, elle procède aussi de la crainte. Ça, c'est un très bel article de saint Thomas d'Aquin. Nous pouvons ainsi considérer la vertu de pénitence quant aux actes par lesquels nous coopérons avec Dieu qui agit dans cette vertu. Dans ces actes, dit saint Thomas, le premier principe est l'activité de Dieu convertissant le cœur. C'est Dieu qui donne la contrition. Il ne faut pas dire, je vais commettre un péché, après j'irai me confesser. Attention, pour pouvoir vous confesser après un péché grave, il y a un certain nombre de conditions. Première condition, c'est d'être vivant. D'être mort, c'est trop tard. Deuxième condition, c'est de trouver un prêtre pour se confesser. Ce n'est pas toujours évident, surtout actuellement. Et troisième condition, c'est d'avoir reçu du bon Dieu le don, la vertu de pénitence. Donc, le premier principe est l'activité de Dieu convertissant le cœur. Il cite les lamentations de Jérémie, « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous nous convertirons. » Nous pourrons nous convertir à vous, dans la mesure où vous nous aurez donné déjà une grâce préalable, une grâce qui n'est pas la grâce sanctifiante, la grâce sanctifiante ne peut pas la recevoir tant qu'on est dans un tel péché mortel, mais une grâce qui nous introduit, si vous voulez, qui nous met sur le chemin du retour vers le bon Dieu. Le deuxième de ces actes, c'est le mouvement de la foi. Troisième, mouvement de crainte servile, qui nous retire du péché par crainte du supplice. Crainte servile, c'est la crainte de l'esclave devant son maître. Mais le quatrième acte, c'est l'acte d'espérance, qui nous fait prendre la résolution de nous amender dans l'espoir d'obtenir notre pardon. Il y a une augmentation à chaque fois de l'amour du bon Dieu. Le cinquième acte, c'est le mouvement de la charité, qui fait que le péché nous déplaît en tant que tel et non plus à cause du châtiment. Le sixième est un mouvement de crainte filiale où par respect pour Dieu, on lui offre de grand cœur l'amendement de sa vie. Il y a donc une augmentation de charité. On commence par avoir au début simplement une crainte servile de Dieu, puis une crainte imparfaite, puis une crainte parfaite. La crainte parfaite correspondant à la charité parfaite. Donc, premier mouvement, Dieu qui agit sur le cœur pour ramener le cœur vers lui. Deuxième mouvement, la foi. Troisième mouvement, la crainte servile. Quatrième mouvement, l'espérance. Cinquième mouvement, la charité. Et sixième mouvement, la crainte filiale. Il apparaît donc que l'acte de pénitence procède de la crainte servile, comme du premier mouvement affectif nous ordonnant la pénitence, et la crainte filiale, comme de son principe immédiat et prochain. Donc au début, eh bien, le bon Dieu souvent utilise, plutôt pour le pécheur qui a fait des gros péchés, utilise la crainte servile. Mais il la monte à la crainte imparfaite, puis à la crainte parfaite. C'est pour ça qu'on dit avec les pères que l'enfer est une création de la miséricorde infinie du bon Dieu. Et c'est vrai. Une création de la miséricorde infinie du bon Dieu, un acte de la miséricorde du bon Dieu, parce que l'existence de l'enfer permet à des tas de gens de se convertir qui ne se seraient peut-être pas convertis s'il n'y avait pas existé, si l'enfer n'avait pas existé. Article 6 de la question 85. La place de la pénitence parmi les autres vertus. Donc, cette vertu de pénitence, dit saint Thomas, elle procède à la fois de la foi, de l'espérance et de la charité. Et non pas en tant que telle la première des vertus. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont plus importantes. Au moment de la justification de l'impie, le mouvement du libre arbitre vers Dieu, qui est l'acte de foi animé par la charité, et le mouvement du libre arbitre détestant le péché, qui est l'acte de la pénitence, sont simultanés. Et au début, il y a Dieu qui donne à l'âme la vertu nécessaire, la grâce nécessaire pour que cette âme commence à se mettre sur le chemin du bon Dieu. Donc il a provoqué le mouvement du libre arbitre vers Dieu, qui est l'acte de foi animé par la charité, et en même temps le mouvement du libre arbitre qui déteste le péché, qui est l'acte de la pénitence. Et tout ça, ces deux actes sont simultanés. De ces deux actes, le premier est une priorité de nature sur le second, car c'est en vertu de l'acte d'amour de Dieu que l'acte d'amour de la vertu de pénitence s'oppose au péché. Ça, c'est une phrase très importante. C'est en vertu de l'acte de l'amour de Dieu que l'acte de la vertu de pénitence s'oppose au péché. Le premier acte est ainsi la raison, la cause du second. Il faut bien comprendre cela. Donc c'est Dieu qui provoque le repentir. On ne peut pas regretter ses péchés à la force du poignet. Il faut que Dieu nous donne déjà les grâces nécessaires. Une fois qu'on a perdu la grâce sanctifiante, il est évident que Dieu ne nous donne pas directement la grâce sanctifiante, puisqu'on l'a perdue. Il faut donc passer par la case pénitence, la case du sacrement de pénitence, pour retrouver de nouveau la grâce sanctifiante. Mais le bon Dieu nous donne des grâces intermédiaires pour des petites grâces, si vous voulez, qui vont nous ramener sur le chemin qui mène au confessionnal. Ça ne suffit pas de se mettre sur le chemin du confessionnal. Il faut non seulement que le bon Dieu nous mette sur le chemin qui mène au confessionnal, après le péché mortel, mais il faut en plus que le bon Dieu nous donne la grâce de regretter nos péchés. Ça, c'est une grâce gratuite de Dieu. Donc la pénitence précède les autres vertus dans l'ordre du temps, quant à son acte, qui se présente le premier dans la justification de l'impie. Dans la justification de l'impie, en effet, en même temps qu'il y a un mouvement du libre arbitre vers Dieu et contre le péché, il y a rémission du péché et infusion de la grâce envers toutes les vertus, envers laquelle toutes les vertus... Pardon, je répète. Dans la justification de l'impie, en effet, en même temps qu'il y a un mouvement du libre arbitre vers Dieu et contre le péché, il y a rémission du péché et infusion de la grâce avec laquelle toutes les vertus entrent dans l'âme. Alors, question 86. L'effet de la pénitence quant à la rémission des péchés mortels. Alors, tous les péchés mortels, se pose la question saint Thomas d'Aquin, est-ce que tous les péchés mortels sont enlevés par le sacrement de pénitence ? Alors, il cite Ézéchiel, chapitre 18, de toutes les iniquités qu'il a commises, je ne me souviendrai plus. Qu'un péché ne puisse être effacé par la pénitence, cela ne pourrait arriver que de deux façons. Ou bien parce que le pécheur ne pourrait plus se repentir de son péché, ou bien parce que la pénitence pourrait effacer celui-ci. Le premier cas est celui des démons, ainsi des hommes damnés, cas de, par exemple de Judas, dont les péchés ne peuvent être effacés par la pénitence parce que leurs cœurs sont confirmés dans le mal de telle sorte que le péché ne peut plus leur déplaire en tant que faute. Il ne leur déplaît que pour la peine qu'ils subissent. Ce déplaisir leur donne une certaine pénitence, mais une pénitence infructueuse. Une telle pénitence n'est pas accompagnée de l'espoir du pardon et du désespoir. Si vous voulez, c'est le désespoir de Judas. Pour ça que je vous ai dit que le péché de désespoir était le péché de loin le plus dangereux, parce qu'il nous coupe de la miséricorde. Au contraire, il faut enseigner que la grâce de Dieu peut amener à la pénitence le cœur de n'importe quel pécheur. Il cite le livre des Proverbes, « Le cœur du roi est dans la main de Dieu qu'il inclinera où il voudra. » Alors, saint Thomas, dans cet article premier, la question 86, donc, explique que c'est une erreur de dire qu'un péché ne peut être remis par la vraie pénitence. Pourquoi ? Parce que cela contredit la miséricorde de Dieu. Joël, le prophète Joël nous a dit, Dieu est bon, miséricordieux et patient. Et l'abondance de sa miséricorde l'emporte sur la malice du pécheur. Je crois que c'est un texte, si mes souvenirs sont exacts, qui est utilisé comme épître du mercredi des cendres, au début du carême. Dieu est bon, patient et miséricordieux, et l'abondance de sa miséricorde l'emporte sur la malice du pécheur. Une phrase magnifique. Jamais, jamais oublier ça, que l'abondance de la miséricorde du bon Dieu est toujours plus grande que la malice du pécheur. Deuxièmement, il ne faut pas accepter l'idée de que certains péchés ne peuvent pas être péchés, ne peuvent être absous par le bon Dieu, parce que cette erreur rabaisse la puissance de la passion du Christ par laquelle opère la pénitence comme les autres sacrements. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc il faut dire sans restriction que tout péché en cette vie peut être effacé par la pénitence. Du moment qu'on regrette son péché, Dieu pardonne. Alors, il y a une objection à laquelle il faut savoir bien répondre. C'est l'objection qui consiste à dire qu'il y a certains péchés contre le Saint-Esprit qui ne sont pas rémissibles. Voilà la phrase. Si quelqu'un dit une parole contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans ce ciel ni dans l'autre. Donc tout péché ne peut pas être remis par la pénitence. Voilà la réponse du bon Dieu, de saint Thomas d'Aquin, pardon, à cette objection. Cette parole blasphème contre l'Esprit Saint, c'est l'impénitence finale, dit saint Augustin. C'est un péché tout à fait irrémissible, car après la fin de cette vie, il n'y a plus de rémission des péchés. Une fois qu'on a quitté le temps, qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de moyen d'obtenir le pardon de ses péchés. Cependant, dit saint Thomas, si l'on entend par blasphème contre le Saint-Esprit le péché commis par malice voulue, ou le blasphème proprement dit contre le Saint-Esprit, on dit qu'il n'est pas remis pour signifier qu'il n'est pas remis facilement, soit parce qu'un tel péché n'a pas en lui de cause excusante, soit parce qu'un péché de ce genre est puni dans ce siècle et dans le siècle futur. C'est-à-dire quoi ? Il est évident que dans certains cas, si nous nous maintenons dans l'orgueil, eh bien le bon Dieu ne peut pas pardonner le péché. Et si je me maintiens dans une situation où je ne peux pas utiliser la miséricorde du bon Dieu, c'est évident que le bon Dieu ne peut pas me pardonner. Donc, par exemple, le désir de rester dans le péché empêche l'œuvre de la miséricorde. Article 2. Les péchés mortels peuvent-ils être mis sans pénitence ? Et Dieu, saint Thomas répond, l'homme ne fait pas pénitence. Si l'homme ne fait pas pénitence, Dieu ne lui remet pas son offense. Il cite Jérémie, « Si cette nation fait pénitence du mal qu'elle a fait, moi aussi je ferai pénitence du mal que j'ai pensé lui faire. » Alors voilà ce que donc explique saint Thomas dans une phrase très importante. « Si l'homme ne fait pas pénitence, Dieu ne lui remet pas son offense. » Donc la pénitence est nécessaire au pardon. Pardon n'est pas gratuit, si vous voulez, dans le sens qu'il faut une coopération de la part de l'homme. La faveur de Dieu cause la bonté chez l'homme, agréable à Dieu, parce que la volonté divine du bien, que le mot grâce signifie, est cause de tout bien créé. Il peut donc arriver qu'un homme pardonne l'offense qu'il a mis en état d'offenser vis-à-vis d'un autre, sans qu'il y ait aucun changement dans la volonté de celui-ci. Mais il ne peut arriver que Dieu pardonne une offense à quelqu'un sans que la volonté de ce pécheur soit changée. Dieu ne peut pas pardonner un péché si l'offensant ne regrette pas l'offense faite à l'offensé. L'offense qui est le péché mortel, dit saint Thomas, vient de ce que la volonté de l'homme s'est détournée de Dieu pour se tourner vers un bien périssable. Aussi est-il requis, pour la rémission de l'offense faite à Dieu, que la volonté humaine soit changée de telle sorte qu'elle se tourne vers Dieu avec détestation de sa conversion antérieure au bien créé, avec un ferme propos de réparer. C'est là l'essence même de la pénitence en tant qu'elle est vertu. Il est donc impossible qu'un péché soit remis sans la pénitence en tant que vertu. Dieu ne pardonne pas un péché qu'on ne regrette pas. C'est absolument évident. Et ça, c'est la catastrophe de la doctrine de Bergoglio. Hein. Bergoglio enseigne tout le temps que Dieu pardonne tous les péchés. Sous-entendu, même si le péché ne regrette pas ses péchés. Attention, Dieu pardonne le pécheur repentant. Mais il ne pardonne pas le pécheur non repentant. Quand un adulte qui a des péchés mortels consistant dans un désordre de l'inclination actuelle de la volonté, les péchés ne lui sont pas remis, même par le baptême, sans le changement actuel de la volonté qui se fait par la pénitence. Donc Dieu va changer la volonté d'un homme qui va passer de l'orgueil à l'humilité. Donc la miséricorde de Dieu a plus de vertu que la miséricorde de l'homme, en ce qu'elle change la volonté de l'homme et l'amène à la pénitence, ce que la miséricorde de l'homme ne peut pas faire. Il y a des passages magnifique dans ce court traité de saint Thomas d'Aquin. Ça reste d'ailleurs rêveur. Qu'est-ce que saint Thomas aurait encore écrit des choses comme choses magnifiques dans ce traité s'il avait eu le temps de le terminer. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Article 3, la question 86. Par la pénitence, les péchés peuvent-ils être remis l'un sans l'autre? C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut pardonner un péché sans pardonner l'autre? Donc ici, saint Augustin, il y en a plusieurs qui se repentent d'avoir péché, mais pas complètement, se réservant certains péchés dans lesquels ils se complaisent. Ils n'ont pas remarqué que le Seigneur a guéri à la fois la surdité et du mutisme le possédé, qu'il a délivré du démon, et nous a enseigné par là que nous ne soyons jamais générés sans l'être de tous nos péchés. Nous ne soyons jamais guéris, pardon, sans l'être de tous nos péchés. Donc imaginez quelqu'un qui amène 10 péchés graves au confessionnal et qui dit au bon Dieu, au prêtre, ben, je regrette tous mes péchés sauf celui-là. Celui-là, c'est mon petit péché particulier, je l'aime bien, je le garde. Les autres, je regrette. Il est évident que si on regrette tous les péchés sauf un, Dieu ne pardonne aucun d'entre eux. Donc il est impossible que par la pénitence un péché soit remis sans qu'un autre le soit. Donc tout péché mortel est contraire à la grâce et l'exclut. Il est donc impossible qu'un péché soit remis, soit qu'un autre, sans qu'un autre le soit. On ne peut donc pas être vraiment pénitent si l'on se repent d'un seul péché sans se repentir d'un autre. Il est donc impossible que par la pénitence, un seul péché soit remis indépendamment des autres. Saint-Thomas prend soin de répéter les choses pour être sûr que ça rentre. Et ici Saint-Augustin, espérer un demi-pardon de celui qui est le juste et la justice est une impiété qui tient de l'infidélité. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Attention à ne pas oublier cela. Quand Dieu pardonne, il oublie, mais Dieu ne pardonne que si nous changeons de vie, que si nous regrettons véritablement l'offense faite à Dieu. Article 4, la question 86, la pénitence enlève-t-elle la faute en laissant subsister la dette de peine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que lorsque le péché saute, est effacé par l'absolution sacerdotale, est-ce que toutes les peines du purgatoire sautent en même temps? Alors, saint Thomas va citer ce qui est arrivé à David, après son péché avec Bethsabée. Donc Nathan vient le voir pour lui annoncer, lui dire, lui faire comprendre qu'il a péché gravement. Et David, avec humilité, reconnaît son péché. « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan, le prophète, lui répond, « Le Seigneur t'a pardonné ton péché, tu ne mourras pas, mais le fils qui t'est né mourra. » Et cette mort fut la peine du péché précédent, donc il reste encore, après la remise de la faute, la dette d'une peine. Donc il y a deux éléments dans le péché mortel. L'aversion loin du Dieu immuable, aversio Deo, et la conversion désordonnée au bien qui passe, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu, l'aversion loin du Dieu immuable, pour se convertir à la créature, conversion désordonnée, déraisonnable au bien qui passe. Du fait de son aversion loin du bien immuable, le péché mortel encourt une peine éternelle, en sorte que celui qui a péché contre le bien éternel doit être éternellement puni. Mais du fait de la conversion au bien qui passe, une conversion désordonnée, déraisonnable, le péché mérite aussi quelques peines. Il est juste en effet que celui qui a permis à sa volonté plus de satisfaction qu'il ne devait est à souffrir quelque chose de contraire à sa volonté, c'est ainsi qu'il y aura égalité. La conversion au bien qui passe étant d'ordre fini, le péché ne mérite pas à ce titre de peine éternelle, mais simplement une peine temporelle. Donc Dieu, par l'absolution, enlève systématiquement la peine éternelle, donc la peine de l'enfer saute, mais il reste à faire pénitence, donc la peine du purgatoire demeure, au moins en partie. De là vient, dit saint Thomas, que si la conversion au bien qui passe n'implique pas de mouvement d'aversion loin de Dieu, comme dans les péchés véniels, le péché ne mérite pas la peine éternelle, mais seulement une peine temporelle. Quand donc par la grâce la faute est remise, l'état d'aversion de l'âme envers Dieu disparaît, en tant que l'âme est unie à Dieu par la grâce, et par conséquent, la dette de peine éternelle disparaît en même temps, mais il peut rester quelques dettes de peine temporelle. Donc en fait, la destruction des peines du purgatoire dépend du degré de charité qu'on a retrouvé par la confession. Par exemple, dans un cas d'une confession très fervente, très profonde, c'est le cas, avec la grâce du bon Dieu, une confession générale de retraite. On a 2 jours et demi pour se préparer. Au bout de 2 jours et demi, il y a la confession générale de tous les péchés de la vie, d'une partie de la vie. En général, le bon Dieu, dans sa miséricorde, dans les confessions générales de retraite, ce sont des confessions particulières, mais qui couvrent 1 an, voire même plusieurs années de péché antérieur, le bon Dieu, dans sa miséricorde, non seulement enlève la peine éternelle, peine de l'enfer, mais aussi une grande partie de la peine temporelle, voire même toute la peine temporelle. Dans certains cas, le bon Dieu enlève tout. Par exemple, quelqu'un qui meurt pour Dieu, le martyr. Un martyr, par son martyr, obtient la grâce du pardon de tous ses péchés. Et non seulement la grâce du pardon de tous ses péchés, mais la destruction de toute la peine temporelle due au péché déjà pardonné. Et donc, un martyr passe directement du lieu de son martyr au ciel. Donc il reste l'élément matériel du péché. Je répète cette phrase de saint Thomas, la grâce enlève l'état d'aversion de l'esprit envers Dieu et la dette de peine éternelle, mais il reste l'élément matériel du péché, l'état de conversion désordonnée au bien créé pour laquelle le pécheur mérite une peine temporelle. Puisque, dit saint Thomas, l'effet de la grâce opérante précède celui de la grâce coopérante, la rémission de la faute et de la peine éternelle précède aussi la pleine absolution de la peine temporelle. L'un et l'autre effet ont pour cause la grâce, mais le premier dépend de la grâce seule, le second de la grâce et du libre arbitre. Cela dépend de la réponse de l'homme, de l'âme de l'homme à la charité, au degré de charité. C'est-à-dire que si quelqu'un se confesse tous ses péchés mortels et a vraiment un très fort regret de ses péchés, Dieu peut donner dans ce cas-là à cet homme, la grâce aussi de détruire toute la peine temporelle liée au péché. C'est le cas par exemple lorsqu'on gagne par exemple une indulgence totale. Une indulgence plénière. Quand on gagne une indulgence plénière, il faut s'être confessé avant de la gagner. Quand on gagne une indulgence plénière, toutes les peines temporelles sautent, toute la peine du purgatoire saute. C'est pour ça qu'à la fin des exercices Saint-Ignace, retraite fermée d'au moins 5 jours, le prêtre qui a prêché ces exercices donne une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale et dans laquelle est incluse la destruction de toutes les peines. Les peines du purgatoire. C'est ce qu'on appelle une indulgence plénière. Et si une personne peut obtenir la grâce d'une indulgence plénière à la fin de la retraite, toutes ces peines du purgatoire, des péchés qu'il a avoués pendant sa confession générale de retraite, sont éliminées. Donc dans le baptême, dit saint Thomas, l'homme entre en participation totale de la vertu de la passion du Christ, en tant que par l'eau et l'esprit du Christ, il est mort avec le Christ au péché et régénéré dans le Christ pour une vie nouvelle. C'est pourquoi, dans le baptême, l'homme obtient la rémission de toute la dette de peine. Mais dans la pénitence, au contraire, l'homme obtient le bénéfice de la vertu de la passion du Christ selon la mesure de ses actes propres, qui sont la matière de la pénitence, comme l'eau est la matière du baptême. Voilà pourquoi toute la dette de peine n'est pas remise aussitôt par le premier acte de pénitence qui obtient remise de la faute, mais seulement quand tous les actes de pénitence sont accomplis. Voilà, donc je vais arrêter là. Il faut encore, je pense, un ou deux cours pour terminer ces questions de saint Thomas. Donc, ceux qui ont la somme, je vous conseille beaucoup de lire les textes intégrales de saint Thomas, qui est magnifique. Là, on sent vraiment que saint Thomas est au sommet de sa science théologique. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. Au nom de Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.